Bonjour Gilles Kepel, bonjour Jean-François Ricard. Je vais vous présenter en quelques mots. Gilles Kepel, vous êtes professeur des universités, politiste, arabisant. Vous êtes considéré comme l'un des premiers enseignants-chercheurs à avoir travaillé sur le djihadisme et le terrorisme islamique. Je me souviens avoir eu l'occasion de présenter avec vous 93, publié en 2012 chez Gallimard. C'était dans les salons Albert Mola, rue Italcarle, tout en haut. Tout en haut. Votre premier ouvrage est sorti en 1984, issu de votre thèse de doctorat, « Le prophète et le pharaon, les mouvements islamistes dans l'Égypte contemporaine ». C'était à la découverte. Et, comme on dit, votre livre a fait date. Et puis après une trentaine d'ouvrages, en 2018, vous avez publié « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient » chez Gallimard. Et en 2023, « Prophète en son pays », j'allais dire, qui était plus personnel. L'Observatoire. Jean-François Ricard, vous êtes magistrat, vous avez été magistrat, vous avez exercé de hautes fonctions au sein du ministère de la Justice, la plupart du temps en relation avec les dossiers liés au terrorisme. En votre qualité de juge d'instruction, vous avez été saisi en 1995 des premières affaires de groupes djihadistes, on va y revenir là aussi, actifs, qui ont perpétré des attentats en France, au nom ou en relation avec le groupe islamique armé, le GIA. Vous avez été avocat général à la Cour d'appel de Paris, vous avez entre autres affaires importantes requis contre le terroriste international Carlos en 2013. Puis avec d'autres hauts magistrats, vous avez plaidé pour la création d'un parquet national antiterroriste. Et vous allez y assurer la fonction de procureur national antiterroriste à l'installation de cette institution, on en parlait évidemment, le 1er juillet 2019 au 22 avril 2024, date à laquelle vous devenez conseiller spécial du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour les questions de terrorisme et de criminalité organisée. Et cette mission s'est achevée sur un des nombreux remaniements ministériels, mais on ne dira plus lequel. Voilà. Tous les deux, comme vous l'expliquez, page 22, Gilles Kepel, fin septembre 2024, vous avez vu la fin de vos carrières respectives, anticipant ainsi, écrivez-vous, un terme qui aurait pu être différé. Jolie formule. J'allais dire à quelque chose, malheur est bon pour nous, car cette liberté nouvelle vous a permis d'écrire ce livre, et tant mieux pour nous. Le livre que nous allons présenter aujourd'hui s'intitule « Antiterrorisme, la traque des djihadistes », édité chez Plon. C'est à ma connaissance la première fois qu'un enseignant-chercheur, spécialiste reconnu de l'islam, comme je l'ai dit, et plus globalement des bouleversements du monde musulman, s'associe à un haut magistrat pour dresser un bilan complet et exhaustif de ce que l'on a appelé la menace terroriste djihadiste. Depuis plusieurs décennies maintenant, depuis 1980 d'ailleurs. Dès les premières lignes du livre, est daté le début de la période où se déploie sur le sol français un terrorisme djihadiste multiforme et évolutif, je reprends vos mots, qui va, dit le texte de l'introduction, des attentats commandités par la République islamique d'Iran à l'assassinat en 2023 d'un professeur de lycée par un ancien élève de l'établissement, parce que ce professeur enseignait les lettres françaises au lieu de la révélation divine musulmane. Fin de citation, on aura reconnu le pauvre Dominique Bernard, professeur de lettres au lycée Gambetta d'Arras, assassiné le 13 octobre 2023. Sur 4 décennies de violence au nom de l'idéologie islamiste, soit 4 décennies de violence, avec une origine que vous datez dans votre prologue, page 19, d'un certain 6 octobre 1981 au Caire. Vous allez nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais d'abord, une première question qui va vous apparaître véritablement posée par quelqu'un qui n'est pas du tout un spécialiste de la question. Qu'appelle-t-on terrorisme djihadiste? Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Le syntagme terroriste islamique est-il utilisé ou pas par les spécialistes? Et comment est-ce que le terme terrorisme s'est imposé?
Merci, merci beaucoup pour ces questions. Merci à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver à la station Ozone. Alors, il m'a fallu un certain temps pour savoir qu'il s'agissait d'ozone, l'auteur latin bordelais, non pas d'un gaz qui a une relation avec l'essence.
Avec un trou
au milieu. Et donc, je suis très heureux d'être ici ce soir avec Jean-François Ricard. Comme notre hôte vous l'a dit, effectivement, c'était pour nous une expérience assez intéressante et assez excitante d'une certaine manière, d'écrire ce livre à quatre mains et de rassembler les pièces d'un puzzle, puisque Jean-François Ricard a eu pendant plus de 30 ans devant lui, quand il était juge d'instruction, puis ensuite, quand il était procureur national, organisait les dossiers, des individus qui avaient été mis en examen pour des faits dont on va reparler, de terrorisme djihadiste. Et en même temps, la magistrature, dans sa formation, d'une certaine manière, n'avait jamais été véritablement habituée à penser ce phénomène. Elle pensait l'infraction, le délit, mais il fallait encore savoir de quoi il s'agissait. Il fallait pouvoir répondre à votre question. Et au fond, Jean-François Ricard, qui a été précurseur en ce domaine, et ses collègues, et ses épigones, ont dû, non pas constituer la doctrine, mais arriver à aller chercher en dehors des manuels de droit eux-mêmes quels étaient les éléments pour arriver à faire leur métier, tout simplement, parce qu'on était là face à quelque chose qui était incomplet. De l'autre côté, l'universitaire connaissait la langue, avait rencontré un certain nombre d'individus, mettait les choses en perspective, mais bien évidemment, même s'il m'est arrivé de rencontrer un certain nombre de djihadistes dans ma carrière, je pense notamment à celui qui est aujourd'hui en prison pour 6350 ans aux États-Unis ou je ne sais combien, Abu Hamza al-Masri, celui qui avait perdu un bras et un œil en ouvrant un paquet qui lui était destiné, donc, et quelques autres, bien sûr. Je n'ai jamais eu devant moi, mon métier n'est pas d'interroger les gens sous la contrainte, évidemment. Et donc, on n'est pas du tout le même type de corpus. Et il nous a semblé que c'était parfaitement intricable l'un dans l'autre. Et c'est ce qui a donné l'idée de ce livre, qui, effectivement, je crois, sans aucune forfanterie, enfin, si vous me pardonnez, est à nul autre pareil, de ce point de vue-là. Et alors, c'est l'alliance, si on a déjà eu la formule, c'est le proc et le prof, le myope et le presbyte, ou vice-versa, enfin bref, l'aveugle et le paralytique. Enfin, voilà, donc.
C'est moins dangereux que le sabre et le goupillon.
Oui, enfin, bref, enfin voilà, vous avez toutes les métaphores que vous voudrez. Et donc, précisément, la question du livre, mais Jean-François y répondra pour sa part mieux que moi, je pense, c'est celle de la définition de l'objet. Puisque, au fond, moi, j'ai analysé les djihadistes et Jean-François a jugé les terroristes. Puisqu'il ne s'agissait pas de juger une représentation du religieux. Le djihadisme ne passe devant le cabinet de Jean-François qu'à partir du moment où il passe à l'acte. Et donc, il est terroriste.
Mais c'est j'y reviens. C'est quoi la définition d'un djihadiste?
Alors, le djihad ou le jihad, ça dépend comment on prononce le j dans les différents dialectes des arabes, c'est quelque chose qui, en fait, a un spectre très large en arabe. Ça vient de la racine à trois lettres, trilitaire, J-H-D, jihad, qui veut dire l'effort. L'effort, par exemple...
Et l'apostrophe E-2-F-O-R-T. Pas les formes opposées aux faibles.
Non, non, oui, non, peut-être, non, mais... oui, ça dépend à la fin des temps, oui, c'est ça.
Me,
oui.
Me permet de préciser.
Vous avez raison, ouais. Effort, oui. Et l'effort. Et donc, pour être meilleur musulman, alors on distingue le grand, le petit djihad, les mystiques considèrent que le grand djihad, ça veut dire de se mettre en état de pureté pour aller au paradis, d'être socialement acceptable, d'obéir à tout, etc. Mais ce qu'on appelait le petit djihad, et qui est en fait la réalité de ce qu'a été le djihad socialement, politiquement, militairement, dans le monde musulman, à travers ces 15 siècles d'histoire, c'est l'effort pour étendre le domaine de l'islam, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la guerre sainte ou la croisade à l'envers, si vous voulez. Et qui est passé non seulement... Donc, par la guerre, effectivement, l'islam s'est étendu en grande partie par la guerre, par ce qu'on appelle aussi le fath, c'est-à-dire l'ouverture du territoire à l'islam, outre la prédication, mais également par la lutte à l'intérieur des pays musulmans pour écarter ceux qui étaient considérés comme des traîtres, des ennemis, de la secte opposée, etc. Et donc, ça s'est très rapidement incarné par la violence, c'est-à-dire on peut dire que le propos du prophète disait quand on voit quelque chose qui est blâmable, on peut le corriger par le cœur, par la langue ou par la main. Alors quand on ne peut pas faire le djihad, on résiste spirituellement par le djihad quand on peut. Sinon, on peut parler contre ce qu'il ne faut pas, prêcher, ou bien par la main. Lors du djihad en Afghanistan, ça a été le cas. Et le terme djihad était un terme qui était relativement inconnu. Si, il y a une cinquantaine d'années, nous avions fait une conférence au début de carrière sur le djihad dans cette salle, vous auriez été peu nombreux, peu nombreuses, parce que personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est pas la peine de traduire. Enfin, vous m'avez quand même demandé ce que ça voulait dire. Mais tout le monde a entendu le mot. Et en réalité, il a été mis en circulation au moment des années où, donc après l'invasion soviétique en Afghanistan, les États-Unis ont financé des groupes djihadistes, donc des groupes religieux.
Décembre 1979.
Voilà, exactement, pour reconquérir au nom d'Allah et contre le communisme l'Afghanistan. Les Américains ont cru pouvoir instrumentaliser les djihadistes. Donc ça aboutit effectivement à 1989, et ça, aux États-Unis, on ne veut pas le reconnaître. Si le mur de Berlin est tombé en novembre 89, c'est précisément parce qu'il y avait eu, 10 ans avant, le départ du djihad, et surtout le 15 février 89, la chute de l'Union soviétique, qui a quitté Kaboul. Et alors là, à ce moment-là, le djihad fait son apparition dans l'histoire mondiale, si vous voulez, puisque ça va être l'élément qui finalement va clore la guerre froide, paradoxalement, et va faire s'effondrer l'URSS. Et je termine par ce mot. Simplement, ensuite, ça a eu un effet secondaire, c'est-à-dire que ceux-là même qui avaient nourri le monstre djihadiste se sont fait mordre par lui le 11 septembre 2001.
Alors, Gilles Kepel dit, le sociologue, le politiste, l'historien, lui a travaillé sur le djihadisme. Vous dites d'ailleurs dans le texte, le sociologue, l'objet n'est pas d'établir la responsabilité d'un individu en fonction d'une infraction légale, mais de comprendre. Alors, je me permets de dire que c'est comprendre au sens weberien, hein, de sociologie compréhensive, du verbe allemand Verstehen, la logique des interactions politiques, idéologiques, religieuses, anthropologiques et autres qui aboutissent au passage à l'acte. Mais puisqu'il s'agit du terrorisme djihadiste, vous avez été pour juger les terroristes. Alors, on voit bien d'ailleurs comment, il y a une trentaine d'années, l'objet terroriste, si je puis dire, est un peu compliqué à saisir pour l'appareil judiciaire. Je me trompe? Vous avez votre micro. Voilà. Allez-y, monsieur.
Et je le prends pour remercier vous-même, mais aussi toute la salle, pour sa patience future. Alors, il y a en fait trois questions dans ce que vous venez d'avancer. La première, c'est est-ce que le terrorisme est un phénomène qui a été facilement appréhendé par la loi, par le droit, par les juges. Ma réponse va être de dire pas tout à fait, et ça a pris du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque moi, je prépare le concours de la magistrature, qui va m'amener pas très loin d'ici, à une certaine
79,
école...
79.
En 79, je passe ce concours. Je fais une année de service militaire avant. Et je passe ce concours, et je regarde les livres de droit que j'ai d'ailleurs gardés. Le terrorisme n'est pas mentionné dans les livres de droit. Le terrorisme n'existe pas pour les profs de droit. En gros, si on est un peu provocateur, c'est trop sérieux pour être laissé à des juges. Et effectivement, à l'époque, qu'est-ce qui existe? La Cour de sûreté de l'État, une juridiction très particulière, dont la formation de jugement est composée à la fois de juges et de militaires, ce qui quand même est un peu particulier, qui ne peut être saisi que sur décision du ministre et qui en fait en quelque sorte une juridiction d'exception. Mais parce que ça s'inscrit dans une certaine logique. À l'époque, on ne parle pas de terrorisme, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est un affrontement entre l'État, dans ce qu'il a de plus régalien, le militaire, l'intérieur, la diplomatie, et des États, des organisations qui voudraient porter atteinte au bon fonctionnement de l'État. On ne parle pas de terrorisme à l'époque, ou très peu. Et par conséquent, le judiciaire, il est là pour la portion congrue, cette Cour de sûreté de l'État à qui on va demander, dans certains cas, d'intervenir. Mais c'est vraiment marginal. 1981, on la supprime. Deuxième temps. Est-ce qu'on la remplace par quelque chose ? Non, rien. Et donc, pendant plusieurs années, le terrorisme, on ne le nomme toujours pas. Il n'existe pas. Dans un code pénal de cette époque-là, dans un code de procédure pénale, dans la loi, le mot terrorisme n'existe pas. Et il est donc traité comme des infractions de droit commun. Carlos, par exemple, va commettre quatre attentats, faire commettre quatre attentats en 1982-1983. Ils vont être traités par les juridictions locales où les attentats ont eu lieu, comme c'est dans des trains, c'est un petit peu au hasard, du moment de l'explosion, l'un à Paris, l'autre à Limoges, un autre à Marseille, etc. Évidemment, ça va être un échec complet, et c'est une période pendant laquelle il y a beaucoup d'attentats. Attentats nationalistes, ultra-gauche, Action Directe, groupes moyen-orientaux, etc. Il se passe beaucoup de choses, on l'a. C'est loin, mais il se passe beaucoup de choses. Échec complet. Justice, à l'époque, non pas marginalisée volontairement, mais impuissante par le fait que le texte, aucun texte ne prend en compte ce phénomène terroriste. Troisième temps, loi de 1986.
Changement politique.
Changement politique, mais en même temps, cohabitation. Une loi très bien rédigée, souvent, moi, je ne dis pas beaucoup de bien des lois parce qu'elles sont souvent assez mal rédigées, ce qui peut permettre beaucoup de dérapages. Celle-là est très bien rédigée. Elle est tellement bien rédigée qu'aujourd'hui encore, elle est parfaitement en activité, si je puis dire, dans les mêmes termes, ce qui est très rare. Et elle définit le terrorisme, c'est-à-dire un certain nombre d'infractions graves, pas n'importe lesquelles, des infractions graves, mais qui sont commises dans un certain contexte, c'est-à-dire dans le but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et ça, ce sont des notions qui ont été par la suite définies avec beaucoup de précision par la Cour de cassation. Moi, j'ai été membre de la Cour de cassation pendant quelques années, et qui dit, attention, là, ça, c'est du terrorisme, ou ça, ce n'en est pas. Donc, il faut être extrêmement précis. C'est une définition exigeante et précise. Et là, j'en arrive ensuite au terrorisme djihadiste. Parce qu'effectivement, c'est ça, ça va être une nouveauté complète. Le terrorisme d'action directe, ultra-gauche, on comprend. On sait à peu près comment il fonctionne. Les Corses, les Basques, terrorisme nationaliste, également. Les groupes internationaux qui ont fait des attentats importants aussi en France, je pense encore à la rue des Rosiers ou autres, on comprend encore. On sait à peu près comment ça fonctionne. Mais quand il y a l'irruption du terrorisme djihadiste, c'est-à-dire 1993-1994, en France, il n'y en a pas vraiment avant, ce n'est pas vraiment du djihadisme, là, on a beaucoup plus de mal, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et on n'a pas les outils intellectuels pour l'appréhender correctement. C'est ce à quoi Gilles Kepel faisait allusion il y a un instant. Parce que les fondements sont différents, parce que leur fonctionnement est différent, parce que leur mode de pensée est différent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a fallu s'adapter.
Alors, c'était très précis. Je vous remercie d'avoir fait ce retour en arrière. On va voir après, d'ailleurs, comment progressivement, au fil, et au fur et à mesure des attentats, mais surtout des différentes formes d'attentats, puisqu'il y a trois grandes parties dans votre livre, et ça correspond à chaque fois à une forme. La première, c'est autour du GIA, la deuxième, c'est Al-Qaïda, et la troisième, c'est Daesh. Puis il y a un épilogue qui s'appelle le djihadisme d'atmosphère, on va y venir aussi, évidemment. Alors, je reviens à cette fameuse date du 6 octobre 1981 au Caire. Vous y êtes d'ailleurs, vous résidez au Caire. Vous allez nous raconter cet épisode qui, quand même, dit des choses. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre 1981, Gilles Kepel ?
Sa date a été assassinée. Et j'étais en Égypte, effectivement. Et pour faire ma thèse sur le terrain, j'ai passé 3 ans de doctorat. Donc, sur ce qu'on appelait, on ne savait pas trop comment le nommer à l'époque, les mouvements islamistes. Et moi, je ne savais pas plus ce que c'était, hein, même si j'avais commencé à m'y intéresser. J'avais, quand j'étais à Sciences Po élève à Paris, donc j'avais pris un cours sur le Moyen-Orient, j'avais déjà fait de l'arabe en Syrie, et j'étais revenu après à Sciences Po, et je regardais ce qui se passait au Moyen-Orient, et un correspondant d'un journal que je lisais à l'époque, Le Monde, Jean-Pierre Perroncel-Hugoz, qui a été d'ailleurs chassé de ce journal peu après, avait commencé à faire des reportages sur ce qui se passait dans les facs égyptienne. Donc moi, j'étais aussi dans une fac. Il y avait des barbus, on connaissait, des barbus plutôt Guevara chez nous, quoique Che Guevara était probablement d'origine libanaise. Jbara, qui avait... c'est un chrétien, mais c'est un chrétien libanais qui avait émigré en Amérique du Sud. Et donc, c'était plutôt des barbes à la Che Guevara, mais là, c'était pas celle de Guevara, c'était celle du prophète, et qui critiquait l'ordre social, qui disait que Sadat était en dépit de son truc sur le front marqué par sa sbiba, c'est-à-dire ce raisin sec, notamment marqué par sa piété ostentatoire, était en réalité un individu épouvantable, un dictateur, un ennemi d'Allah, et qu'il fallait se débarrasser de lui.
Mais c'était plutôt des fréristes,
de tout. C'était à l'époque, j'en étais pas encore à comprendre les différences. Bon, on connaissait le mouvement des frères musulmans, mais qui était très ancien, mais c'est quelque chose qui était très différent. Donc, je suis allé. Mon patron, Rémi Levaux, qui avait travaillé sur le Maroc, qui avait fait un livre qui, maintenant il est décédé bien sûr, mais sur le Maroc, qui s'appelait le Fellah marocain défenseur du trône, qui a montré comment la monarchie marocaine avait utilisé les paysans pour maintenir à distance la bourgeoisie des villes, pour, et maintenir la monarchie de telle manière, qui était un homme très curieux d'esprit, m'avait dit, bon Gilles, ben, vous y allez, je vous emmène avec moi, et j'ai passé trois ans là-bas, en toute liberté, à étudier ça, dans l'incrédulité générale. À l'époque, l'université était gauchiste, ça n'a pas changé, mais elle est maintenant islamo-gauchiste.
Voilà, des cycles, voilà. Des cycles.
Et moi-même aussi, d'ailleurs, je l'étais. Mais je m'intéressais à ce phénomène très curieux, parce qu'il ne nous ressemblait pas du tout. Ça nous disait quelque chose. Et donc, je suis allé m'intéresser à ce phénomène, à rencontrer ceux qu'on pouvait rencontrer. C'était difficile, Salat, c'était très, très répressif. Lire leurs journaux, enfin, me pénétrer à travers leur langue, leur manière de penser, parce que si on n'a pas le vecteur de la langue arabe, idéalement, ou d'une autre, mais maintenant, tout ça fonctionne aussi en français, nous avons des djihadistes français, des convertis, mais le socle, la manière de penser, de réfléchir, les chaînes intellectuelles fonctionnent en arabe. D'où l'importance d'avoir une connaissance de la langue. Quand j'ai eu des polémiques diverses avec d'autres qui m'expliquaient que le djihadisme n'existait pas, qu'il y avait une islamisation de la radicalité dans la radicalisation de l'islam, mon interlocuteur ne connaissait pas un mot d'arabe, donc du coup, il ne pouvait pas comprendre comment ça fonctionnait. Mais bon, c'est une autre affaire. Et donc, j'étais là-bas, et dans l'incrédulité générale, on pensait que ce mouvement n'avait aucune importance, et que d'ailleurs, je devais être un peu suspect de s'intéresser à ça. Bon. Et... donc ce jour que vous évoquez,
c'est l'anniversaire du déclenchement de la guerre.
La traversée du canal par l'armée égyptienne.
73.
Et voilà. Et donc parade militaire, ça date le président croyant. Je faisais aussi parce que lui, il essayait aussi d'utiliser la religion. Il avait senti ce phénomène comme légitimation. Et est assassiné par des djihadistes, donc membre d'une organisation qui s'appelle Tanzim al-Jihad, l'organisation du djihad, notamment. Et j'avais une employée de maison, donc femme d'un policier qui était un peu au bas de la pyramide du pouvoir en Égypte. C'était pas un chaouche qui en donnait un bakchiche pour stationner, c'était un gars qui mettait des contraventions, donc c'était sérieux. Et je la vois revenir, elle avait fini son service. Et elle me dit, j'ai été complètement décomposé, je lui dis en dialecte égyptien, Hassan, c'était son nom, ça veut dire faire le bien, Hassan Malek, qu'est-ce que tu as? Et elle me dit, Monsieur Gil, parce qu'en Caire, on dit le « je » « gue », « smert fera du olbawa, darbur ses asadat, incha'Allah, yimawitou ». Incha'Allah, c'est pas la peine de le traduire désormais en français. Monsieur Gil, j'ai écouté sur la radio du portier, on a tiré un coup de pistolet sur Sadat, Inch'Allah, donc qu'il l'ait tué. C'était très frappant parce que dans l'éthique musulmane, on ne se réjouit pas que quelqu'un ait été tué, et surtout devant un infidèle, qu'un autre musulman ait été tué. Et ça marquait un peu la force du sentiment de rejet de l'autocrate, Sadat, et donc la capacité finalement que même dans une famille de policiers, ce genre de ce régicide avec l'effet que ça avait pu avoir. Et donc, ça m'a laissé penser qu'il y avait quelque chose là. Et on a, d'une certaine manière, mis cet épisode en exergue du livre, parce que c'est un peu, en tout cas dans mon expérience comme l'un des auteurs, ce qui a marqué la rupture. Ça y est, on était dans quelque chose où, au nom d'une conception dévoyée ou non, comme on le veut, de la religion musulmane, on va avoir un passage à l'acte terroriste. Et c'est exactement ce que disait Jean-François Ricard. Avant, on a des passages à l'acte terroriste, par exemple, qui sont liés à l'islam, parce qu'ils sont commandités par la République islamique d'Iran, à la rue de Rennes, par exemple, chez Tati, mais qui ne sont pas du djihadisme véritablement, parce que c'est un État qui utilise n'importe quel prétexte pour...
Ça, c'est septembre 86.
Voilà. Alors que les autres, après, ça va naître précisément de l'idéologie djihadiste, d'où la stupéfaction par laquelle on commence le livre avec Jean-François Ricard, qui a des qualités qu'on n'imagine pas nécessairement un procureur, c'est-à-dire un sens de l'humour assez redoutable, ce qui fait qu'on arrive à se supporter mutuellement, et également qui est un amateur d'art très éclairé, avec donc pour ces deux raisons, a intitulé la première, le début du livre, La gare de Perpignan,
oui,
en lien à Salvador Dali, bien sûr, le centre du monde, car effectivement, c'est à la gare de Perpignan et qu'il tombe sur quelque chose. Alors, les gens qui lisent le livre disent « Pourquoi on a tellement parlé de cette... C'est un peu long, on a oublié toute cette affaire. » Pas du tout. C'est le moment de la stupéfaction de celui qui exerce le magistère du magistrat, si j'ose dire, et qui tombe sur des gars qu'on arrête, là, qui sont pleins d'armes, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ne vont pas aller sur le territoire français, mais c'est le... D'une certaine manière, c'est l'autre début du livre. Si vous voulez, le début intellectuel global vu par votre serviteur, c'est en Égypte. C'est un mouvement qui n'a pas lieu en France, mais qui va avoir ses effets jusqu'à aujourd'hui. Mais le début français, c'est la gare de Perpignan. D'où la métaphore par Salvador Dali. C'est le centre du monde, mais on ne le sait pas.
Voilà. On le voit dans le texte. Alors, il y a un autre événement qui est concomitant, en tous les cas, à peu près dans le même temps que la fameuse gare de Perpignan. Ça s'appelle le MJIM. Hein, c'est le mouvement de la jeunesse islamiste marocaine. Hein. Vous parliez du Maroc et des travaux de Rémi Levaux. Là, c'est, on est dans quelque chose de beaucoup plus lourd, si je puis dire. Ce sont les attentats de Marrakech, dit de Marrakech. Rapidement, c'est un commando qui rafale, qui tire dans un hôtel, enfin, qui cible des touristes qui sont à Marrakech. Et vous dites là, il y a véritablement, c'est l'hôtel Atlas Annie à Marrakech, hein, vous dites on sent que les choses ne seront plus les mêmes à partir de ce moment-là.
Effectivement, jusque-là, on ne connaissait pas du tout cette forme de terrorisme. On l'ignorait complètement. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de terrorisme et de djihadisme. Tout le monde a quelque chose à dire à ce sujet. Mais avant 1993, avant 1994, en France, sur notre territoire, il n'y avait rien de tel. Et donc, c'est un phénomène qui survient et qui, au début, est peu compréhensible. Alors, il faut quand même se souvenir que c'est avant tout en Algérie que ça se passe, puisque avec la rupture du processus électoral, un certain nombre de groupes se sont organisés à côté du Front islamique du Salut, et notamment le GIA, le groupe islamique armé, et qui lance une véritable guérilla, aussi bien urbaine que dans les campagnes, en Algérie, et qui pratique massivement le terrorisme, étant adhérent à une idéologie totalement ultra du djihadisme. C'est une des idéologies les plus sanglantes qui ait pu exister. Et ce qui se passe d'un côté de la Méditerranée a évidemment des répercussions de l'autre côté. Et à cette époque-là, il y a des événements de la sorte, bien sûr d'abord en Algérie, mais aussi d'autres au Maroc et en Tunisie. Et le groupe auquel vous faites allusion est assez intéressant parce que, certes, il ne commet pas d'action en France, sauf des braquages pour se financer, ce qui n'est quand même pas rien, mais surtout, il nous permet de comprendre qu'il y a toute une série de choses qui se sont passées au cours des années qui ont précédé et qu'on n'avait pas vues. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on découvre, à travers cette procédure qui est ouverte à l'été 1994, on découvre qu'il y a des gens qui ont été recrutés un peu partout en France pas seulement à Paris ou en banlieue, en Seine-Saint-Denis, mais il y en avait à Orléans, il y en avait à Carpentras, il y en avait également dans l'Est de la France. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis on voit que ces jeunes, depuis plusieurs années, s'entraînent, sont encadrés, sont entraînés, y compris dans des stages physiques, voire des tirs, apprendre à tirer avec des armes chez nous. Et puis que certains ont même été envoyés en Afghanistan pour se former. Et donc on découvre à rebours qu'il y a déjà en France des groupes, des individus qui non seulement adhèrent à cette idéologie, mais sont prêts à agir et vont agir dans un premier temps au Maroc. Et puis quelques mois plus tard, il n'y a pas simplement le Maroc, mais il y a notre territoire.
Et là, c'est les attentats de juillet 95.
Alors avant ça, on a un événement extrêmement grave qui, pour deux raisons, est très vite oublié. On est à la Noël 1994. C'est le détournement du vol Alger-Paris par un commando du GIA qui tue très rapidement 3 passagers,
un cuisinier de l'ambassade de France,
dont un cuisinier de l'ambassade de France, un policier algérien et un diplomate d'un pays tiers. On parvient, avec les négociations, à fixer l'avion
à
Marignane. Un commando du GIGN fait un véritable exploit au péril de la vie de leurs membres en éliminant le commandant et en libérant tous les passagers qui étaient restés dans l'avion. Et puis, comme on est entre Noël et le jour de l'an, c'est un peu la trêve des confiseurs. On se dit tout est bien qui finit bien.
Pardon, Jean-François, je vous coupe, mais on reconstitue le projet. C'était carrément de faire un 11 septembre bien avant l'heure, sans doute de balancer l'Airbus d'Air France sur Paris. Quoi.
C'est tout à fait probable. On a retrouvé quelques mois plus tard un numéro de la revue Al-Ansar, qui était une revue de propagande du GIA, et on voyait cette tour Eiffel brisée en deux. Avec un Paris en flammes. On est passé à côté d'un attentat gigantesque et on préfère pas le voir, on préfère ne pas le croire. C'est Noël, on passe à autre chose. Le GIGN a été merveilleux et on se dit, on est tranquille.
Et puis on est en cohabitation aussi, puis c'est un peu les bagarres. Baladur, Chirac.
Enfin, on ne veut pas trop
bien lancé quand même.
On ne veut pas trop croire à ça parce qu'on a du mal à le comprendre. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ces gens qui, au nom de la religion, veulent venir en France pour nous tuer. Qu'est-ce que ça signifie? C'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et puis, au cours des mois qui vont suivre, on va se rendre compte que la menace monte de plus en plus. On découvre des écrits de plus en plus menaçants qui nous visent. On sait qu'il y a des caches d'armes qui sont découvertes. On fait des arrestations, les arrestations qui ont lieu en Belgique, d'autres en Italie, d'autres en France. De l'autre côté de la Méditerranée, il y a eu des Français qui ont été visés de plus en plus. Et les services algériens vont nous informer qu'il y a la possibilité qu'un commando vienne chez nous. Quelques temps plus tard, on a cette campagne d'attentat qui commence le 25 juillet 1995 par l'attentat de Saint-Michel.
Et c'est là que vous, d'une certaine façon, vous êtes de plein pied, si je puis dire, d'un seul coup balancé dans le bain, puisque vous avez rejoint deux juges d'instruction, Laurence Levert et Jean-Louis Bruguière, qui sont les seuls juges d'instruction en charge du terrorisme. Vous êtes arrivé il y a peu de temps, vous êtes le troisième, vous êtes de permanence parce que le 25 juillet, ils sont en congé, et ça vous tombe dessus au moment de l'attentat du RRB, je vais y arriver, à Saint-Michel. Il y a un événement, je l'ai noté parce que ça ressemble presque dans une sorte d'homologie structurelle de temps, à l'assassinat du commandant Massoud juste avant le 11 septembre 2001. Il y a un prêcheur qui s'appelle Abd al-Baki Sahraoui, excusez-moi pour la prononciation, qui est assassiné.
Très bien,
merci Gilles. Qui est assassiné le 11 juillet 1995 dans sa salle de prière. Alors ça, c'est quand même très étonnant. C'est un peu comme si c'était un peu le top départ. Mais si j'ai bien compris, il est assassiné à la demande de l'émir du GIA Jamel Zitouni, et alors que c'est aussi un fondamentaliste, Sahraoui. Comment ça se passe là?
Oui, mais c'est. C'est à Jean-François de répondre pour votre question, mais l'insiste, c'est que c'était celui qui servait d'interface.
Avec Pasqua.
Avec Pasqua, oui.
Donc, je rappelle que l'ambition de Pasqua en 86, c'était de terroriser les terroristes.
Voilà. Bon. Donc, d'une certaine manière, Sahraoui, interface de Pasqua, garantissait qu'il n'y aurait pas de débordement sur le territoire français.
D'où la cible pour le GIE.
Voilà. Alors après, c'est une question beaucoup plus complexe, sur laquelle, d'ailleurs, comme dirait Jean-François, nous avons des nuances, puisque Jean-François, strictement la procédure, c'est son métier, c'est normal, considère que le GIA, ce sont des djihadistes, des islamistes, il les a eus en face de lui, dans son bureau, il sait de quoi il parle. Mais la question qu'on peut se poser rétrospectivement, c'est dans quelle mesure est-ce que l'exportation du djihad sur le territoire français n'a pas fait les affaires du pouvoir algérien, qui du coup a ensuite fait la réconciliation nationale en disant, au fond, le djihad, c'est la prolongation du nationalisme, la lutte pour l'indépendance, et on doit combattre les infidèles là-bas, mais finalement, entre nous, nous pouvons nous entendre. Et c'est ce qui a été la concorde civile qui a fait de Bouteflika après. Ça a consisté à ce que tous les djihadistes recyclés sont devenus ministres des pêches, de l'agriculture, et ont pu se partager la rente pétrolière. Donc c'était un moment de bascule. On manque encore du recul et des preuves pour l'indiquer. Donc on laisse ça ouvert. Mon interprétation, c'est pour ça que Sahraoui était... J'avais pas pensé... vous savez, à l'homologie structurelle, c'est très bien vu, effectivement. Le commandant Massoud est assassiné pour...
Vers le 4 septembre.
Exactement, juste avant. Et puisque, d'une certaine manière, ça permettait d'éviter qu'il y ait des troupes anti-Ben Laden qui s'organisent. Et là, juste avant 95, effectivement, il est assassiné. Et dans le livre, j'ignorais, les juges ont découvert le véhicule qui a servi à assassiner Sahraoui est retrouvé juste à côté du domicile de Boualem Ben Saïd, dont Jean-François va vous parler.
Donc vous allez nous parler parce que
celui qui a failli étrangler Jean-François Ricard bureau des instructions.
Il va falloir nous le dire. Alors, d'une certaine façon, ce premier attentat là. Que vous nous présentez de manière très documentée, donc 25 juillet 95, il faut lire le moment où vous êtes... En fait, vous êtes tout près, puisque vous êtes dans l'île de la Cité, juste au-dessus, si je puis dire, vous êtes dans sous les combles. C'est l'exacte démonstration de ce que vous dites au tout début, l'un et l'autre, je crois que c'est vous, Gilles, que vous avez, avec la judiciarisation du terrorisme, un corpus universitaire fabuleux, qui n'avait jamais été véritablement exploité, tellement il y a de données accumulées. Parce que vous avez cette réflexion, le lendemain matin de la commission des faits, le président Bruno Cotte vous dit c'est vous qui êtes chargé de l'instruction. La brigade criminelle vous fait une note qui tient sur une page. Et puis vous dites, 5 ans plus tard, quand je rends mes conclusions... Et que ça va être il y a 19 000 pages. Donc on voit de cotes, enfin pas de pas, pardon, pas de pages de cotes.
Bruno Cotte.
Merci. Donc on voit comment, d'une certaine manière, à travers ce premier attentat, vous allez explorer des champs qui sont complètement vierges, quoi.
En grande partie, c'est le premier grand attentat aveugle, d'ailleurs, depuis des années sur le territoire français. Et il faut le dire, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La police scientifique n'est pas du tout ce qu'elle va être quelque temps plus tard. Même le travail des enquêteurs à l'époque n'était pas aussi codifié, aussi précis qu'il a pu être organisé par la suite. Et nous aussi, magistrats, on n'est pas du tout organisés pour faire face à ce genre d'événement. Et puis, il a quand même fallu faire face. Et la difficulté, elle est de deux ordres. C'est que cet attentat n'est pas isolé, premier point. C'est une campagne d'attentat. Et quand il y a une campagne d'attentat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sur notre territoire des gens qui, tous les jours, peuvent frapper n'importe où, n'importe qui. Et là, on a véritablement la possibilité de voir l'État qui vacille. Parce qu'ils ne vont pas se contenter de frapper en région parisienne, ils vont le faire aussi en région lyonnaise, ils s'apprêtaient à le faire en région lilloise lorsqu'ils ont été arrêtés, et ainsi de suite. Et donc, on part de zéro. Ou plus exactement, on a quelques éléments grâce à la DST, à l'époque, la Direction de la Surveillance du Territoire, qui était à la fois un service de renseignement et un service judiciaire, qui a des informations par les services algériens sur ce commando. Sauf que les informations que nous donnent les Algériens sont en partie vraies, en partie fausses. Je ne dis pas volontairement fausses, mais je dis objectivement fausses.
Oui, il vous annonce l'arrivée de quelqu'un qui ne viendra jamais.
Il nous annonce l'arrivée de quelqu'un qui ne viendra jamais. Pourquoi ? Parce qu'il était blessé en Algérie et qu'il est incapable de venir sur le territoire et qu'il est remplacé par deux autres individus. La particularité de cette époque-là, on va la retrouver très rarement dans l'histoire du terrorisme français, notamment du terrorisme djihadiste. On va la retrouver notamment une fois, dont l'anniversaire se fera hélas dans les prochains jours, c'est lors du 13 novembre 2015, avec les attentats qui ont lieu aux terrasses ou au Bataclan, c'est-à-dire un commando projeté. Et là, c'est tout à fait particulier. Dans la plupart des autres attentats ou des projets d'attentats, ce sont des gens qui vivent déjà en France. Là, c'est un commando projeté, plus exactement deux individus, Ben Saïd et un nommé Smaïn Aïtali Belkacem, vont être envoyés avec des circuits extrêmement complexes.
Ah oui, c'est incroyable.
Pour arriver jusqu'en France et s'appuyer sur des petites structures, ils ne sont pas très nombreux à l'époque, qui ont déjà été mises en place par un troisième larron, un nommé Ali Touchent alias Tarek. Ils vont s'appuyer sur ces petites
structures. On se demande s'il n'est pas pour le coup.
Alors,
lui aussi.
On en reparlera.
Vous employez le mot mystérieux.
On en parlera tout à l'heure. Et donc, ils vont s'appuyer sur ces petites structures qui sont dans la région lyonnaise, qui sont un petit peu plus au sud de Lyon, à Chasse-sur-Aune, en région parisienne, en région lilloise. Et puis, il va y avoir cette campagne d'attentat. Et la première chose, c'est donc qu'il faut mettre fin à cette campagne d'attentat. On va réussir à le faire. Et le dernier attentat a lieu. C'est un attentat Saint-Michel bis. Il a lieu entre les gares de RER, donc de Orsay et de Saint-Michel. On l'appelle l'attentat d'Orsay, mais ce n'est pas vraiment l'attentat d'Orsay. À une minute près, on était à nouveau à Saint-Michel. Et peu de temps après, les principaux responsables de ce groupe seront arrêtés. Et la deuxième difficulté, c'est que certes, arrêtés, les poursuivre dans le cadre d'un dossier d'association de malfaiteurs, c'est non pas relativement facile, mais c'est faisable. Mais après, il fallait prouver attentat par attentat qui avait fait quoi. Et là, c'est une autre paire de manches.
Et vous dites, pendant 5 ans, je n'ai vécu que dans la recherche de la preuve permanente. Alors, c'est là qu'il y a un nom qui est resté dans les mémoires, c'est Khaled Kelkan, mais vous dites, ce type, c'est le type qui a été neutralisé, selon les termes appropriés, dans la cambrousse, là, lyonnaise, voilà. Bon. Mais vous dites, c'était... Vous dites pas, vous parlez mieux que moi, mais c'était un peu un second couteau.
C'était un petit voyou radicalisé, mais il n'était absolument pas au niveau des deux individus qui étaient des hauts responsables militaires du GIA qui avaient été envoyés en France.
Donc, Boualem Ben Saïd, vous l'interrogez 19 fois pendant 4 ans. Le premier interrogatoire, il ne veut pas rentrer dans votre cabinet. Il est hyper costaud, vous dites, parce qu'il a fait l'institut de gym, enfin le crêpes algérien.
Oui, exactement.
Voilà, donc il est costaud. Et la deuxième fois, vous allez mettre une escorte un peu plus solide. Les 4 premiers entretiens, vous lui sortez pas le début du commencement d'une preuve. Vous dites, il joue de la séduction. Il fait un peu le beau gosse, comment dire, en matière de criminalité, cette fois-ci classique. Et puis, cinquième interrogatoire, vous commencez à sortir les cartes, et là, il explose, il vous insulte.
Oui, c'était un peu plus rapide que ça. Hein. C'était effectivement... C'était un vrai combattant du GIA. Il faut quand même voir que le GIA en Algérie, en quelques années, c'est 200, entre 200 et 300 000 morts. C'est des villages entiers où toute la population est égorgée et éventrée. C'est une violence extrême. Et tout le monde est visé par cette violence extrême. Ben Saïd, lui, est le pur produit de cela. Et puis, c'est un chef. C'est quelqu'un qui va organiser les attentats, qui va faire les repérages, qui va choisir les objectifs, qui va les préparer, qui va recevoir les financements qui arrivent depuis Londres et qui va désigner ceux qui vont les réaliser quand ce n'est pas lui-même qui va opérer ces actions terroristes. On est en présence de quelqu'un qui sait qu'il est important, qui ne cache pas qu'il est venu en France pour faire cette campagne d'attentat, mais qui, comme il me le dira à ce moment-là très directement, maintenant, pour cet attentat, en l'espèce celui de Saint-Michel, prouvez-le.
Faut qu'on avance.
Si je trouve, oui, je dis un mot. Ce sont des pages les plus extraordinaires du livre. Je peux en parler parce que c'est surtout de la plume de Jean-François. À ce moment-là, ça se lit comme un polar.
Ah, exactement.
C'est absolument extraordinaire. Donc, la recherche de la preuve, justement. Et finalement, on arrive à trouver qu'un ticket de carte orange que l'autre, Ali Tahir Belkacem, avait oublié de jeter et qu'on trouve en procédure dans une perquisition à Villeneuve-d'Ascq. On pouvait trouver à ce moment-là que la dernière validation du ticket. Et qu'est-ce que c'est la dernière validation? C'est quelques minutes, il sort de la station Gare d'Orsay, quelques secondes avant que c'est une enquête extraordinaire.
Et surtout qu'on a du mal, mais ça fait 30 ans, mais on a du mal à imaginer qu'il y a très peu de téléphones portables, ça borne pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance, etc. On est à l'ancienne, là, c'est vraiment un travail ancien. Alors, il faut qu'on avance, parce que c'est... Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a une manière de présenter vos écrits, c'est tout à fait vivant, puisque quand vous, l'un ou l'autre de vous deux prenez la parole, il y a une note infrapaginale qui dit GK ou JFC, je vais y arriver. JFR. Et là, on vous écrivez à la première personne, quoi. Donc il y a une dimension complètement
témoignage. On a essayé de faire ça,
témoignage.
C'est pas parce que un livre d'entretien, ça aurait été un peu ennuyeux. Ouais. Et puis l'idée, c'était quand même de rendre avec le livre cette dimension de complémentarité.
C'est
du peuple qui s'inspire.
Et de tension, on sent la tension.
Oui, et donc, y a le récit qu'on construit à partir de nos expériences, de la combinaison de notre expérience. Et puis, évidemment, quand y a la phrase « Oulem Ben Saïd allait se jeter sur moi, heureusement que le gendarme a mis son brodequin d'œuvre », évidemment, je connais, sur le « moi », il y a une petite note, c'est « JFR », évidemment, il ne s'agit pas de moi. Et quand c'est l'affaire de l'Égypte, il y a une petite note avec...
Alors, deuxième partie, c'est Al-Qaïda, il faut qu'on aille vite, il y a là aussi quelque chose de saisissant, ça s'appelle « L'effet de souffle du 11 septembre en France », ça c'est le titre de la partie. Et puis vous commencez par l'évocation d'un certain Zacharias Moussaoui, un Français arrêté près de Minneapolis par le FBI le 16 août 2001. Donc on est ni plus ni moins à moins d'un mois du 11 septembre. L'individu a attiré l'attention de l'antenne locale du FBI parce que l'histoire est connue. Il prend des cours de pilotage de 747-400 sur simulateur, mais il est totalement inintéressé par la procédure de décollage et par la procédure d'atterrissage. C'est pas son problème numéro un. Bon. Donc ça finit quand même au troisième cours, dit-on, ça attire l'attention du FBI, sauf que il n'y a pas véritablement de suite. Et le plus spectaculaire, vous dites, j'organise une réunion à Paris au titre de ce qu'on appelle l'entraide de la lutte anti-terroriste avec des cadres du FBI. Et vous leur mettez en main un certain nombre de preuves, quoi. Hein, et il y a un déni du terrorisme. Ils considèrent qu'il ne pourra pas y avoir un attentat violent, alors qu'ils ont connu une première tentative d'attentat au World Trade Center. Vous vous dites, on a trouvé des quantités d'explosifs. Vous dites, je leur explique que ça peut faire tomber des immeubles.
Alors là, on est en un peu plus tôt,
2000, quoi.
On est au début 2000. Au début 2000, ça fait des années qu'on travaillait sur un très vaste réseau qui était à la fois au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en Bosnie, en Turquie, en Italie et bien sûr en France. Et pendant des années, on a travaillé sur ce réseau. Et c'est un des membres de ce réseau qui était basé au Canada qui se fait arrêter lors du passage à l'an 2000, juste avant le passage à l'an 2000. et sa voiture est bourrée d'explosifs, un explosif dont il a appris la fabrication lorsqu'il était en Afghanistan, et de systèmes de mise à feu. Il explique, d'ailleurs, il finira par reconnaître que ce qu'il voulait, c'était faire sauter l'aéroport de Los Angeles. Et donc, quelques semaines plus tard, avec mon collègue Jean-Louis Bruguière, on organise une réunion dans le cadre de la coopération internationale. Et là, on a effectivement des difficultés à se faire comprendre de nos amis américains, parce que, et qui pourtant sont de très très bons enquêteurs, parce qu'ils ont du mal à comprendre ce phénomène djihadiste qui fonctionne cette fois-ci, et ça c'est vraiment important à comprendre, sans véritable organisation. Tout à l'heure, on a parlé du GIA. J'en ai pour une minute là-dessus, parce que ça me semble central. Qu'est-ce qui change avec le terrorisme djihadiste? Ce n'est pas simplement sa motivation religieuse, c'est son fonctionnement. On n'est plus, et Gilles Kepel le dira beaucoup mieux que moi en arabe, on n'est plus en présence d'organisation, on est en présence d'un système. C'est-à-dire que on n'a pas une organisation pyramidale. On a des gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui partagent la même idéologie et qui travaillent ensemble. Mais ils peuvent travailler un jour ensemble à une fonction et le lendemain à une autre, un jour au Canada, le lendemain en Allemagne, en France, en Angleterre, que sais-je. C'est ça ce qui change. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent un peu par rhizome.
Mais c'est fascinant parce que c'est un peu Internet.
Ils sont extrêmement modernes.
C'est plus précisément, c'est Gilles Deleuze.
Oui.
C'est le rhizome révolutionnaire de Gilles Deleuze, pas face au léninisme, si vous voulez. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est en arabe, c'est Nizam la Tanzim, un système et non pas une organisation.
D'accord.
Et celui qui a eu cette idée, un Syrien francophone du surnom d'Abou Moussa Bessouri, qui a sans doute été livré par la CIA au régime de Bachar el-Assad, dont on exhumera peut-être dans la prison de Saïd Naya, avait à l'époque été en France étudié à Jussieu, où enseignait justement Gilles Deleuze. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils étaient en contact. Chaque fois que je dis ça, évidemment, ça ne m'aide pas à être populaire dans le milieu gauchiste maintenant, mais bon, j'en ai fait mon deuil, on ne peut pas être et avoir été. Mais j'imagine que le cadavre de Deleuze doit se retourner dans sa tombe. Sauf que, d'une certaine manière, c'est la naissance de l'islamo-gauchisme, d'une certaine
façon. Vous voulez,
l'un des éléments de naissance.
Si vous voulez ne plus avoir de soucis avec les gauchistes, mais ça, vous n'arriverez pas, citez Manuel Castells, parce que c'est exactement les thèses de Castells, de nouvelle formule de Castells, qui a travaillé sur ces rhizomes, justement, aussi. Al-Qaïda, 11 septembre, quels sont les effets de souffle, peut-être que Gilles va nous en parler, les effets de souffle, justement, puisque c'est votre étude, de cet événement, et qu'est-ce qu'en France on va avoir, on voit apparaître le groupe des buts de Chaumont.
Alors très rapidement,
oui, parce que là, malheureusement,
ce qui m'a, moi, fasciné dans ce travail avec Jean-François, c'est tout ce que j'ai appris, parce qu'on aurait pu penser, le père Kepel, bon, maintenant, ranger des voitures, il est blasé, pas du tout, j'ai appris énormément de choses, notamment sur cette période, ce que le groupe dont Jean-François vient, ce réseau, donc le Nizam dont Jean-François vient de parler, où ils ont ces histoires, ils racontent comment ils vont en Italie au centre culturel islamique, enfin c'est vraiment l'impression d'être encore une fois dans du polar, en Bosnie, en Turquie, aux États-Unis, au Canada, avec le gars qui sort par les fenêtres parce que le service canadien c'est pas encore ça non plus. Tout ce qui se passe à ce moment-là en France, on le sous-estime complètement parce qu'il n'y a pas d'attentat sur le territoire français. Entre le groupe de Roubaix, 96, et Mohamed Merah, 2012, en apparence, il ne se passe rien. En réalité, se passe énormément de choses. Et d'ores et déjà, les services de renseignement et juridiques sont capables d'éviter un certain nombre d'attentats. Donc, on n'en parle pas. Donc, en particulier, Jean-François détaille très précisément les attentats projetés à Strasbourg, ce qu'on appelait dans la procédure Francfort 1 et Francfort 2, mais il faut lire le livre pour ça, sinon si on vous dit tout, vous ne lirez pas le livre. Donc il faut laisser un peu de suspense maintenant, et surtout avec le temps qui passe, on n'a pas le temps de lire. Donc il faut lire, n'oubliez pas d'acheter le livre, on vous fera un plaisir de vous dédicacer, et même un exemplaire pour le gendre, pour ce soir, là, pour les vacances de Noël, c'est pas interdit. Hein. Et je dis ça sous le contrôle de Denis Mola, ici présent. Et donc, tout ça, c'est fascinant parce que moi, je suivais ces affaires, je m'intéressais aussi aux enjeux, pas seulement au terrorisme, à ce qui se passait en France, les phénomènes de banlieue, etc. Mais tout ça était complètement passé sous le radar. Or, aujourd'hui, en rétrospective, grâce à notre collaboration, et surtout à ce que Jean-François a fait sortir des armoires de la procédure, d'une certaine manière, et qu'on a traduit dans des termes qui sont compréhensibles pour le public, je crois que c'est ce que nous avons fait, c'est une contribution à l'histoire contemporaine de la France, une histoire noire par-dessous, qui était totalement inconnue, dont on n'avait que des effets, alors que là, on arrive, à mon sens, notamment en lisant ce chapitre du milieu, à découvrir les ramifications inconnues jusqu'alors. On a exhumé, Jean-François a exhumé les ramifications qui vont expliquer ensuite comment on arrive. Mehran ne sort pas, si je vous disais, de la cuisse de Jupiter, ni de l'opération du Saint-Esprit. Oui. Peut-être davantage de celle du Saint-Esprit. Mais
ça... Non, mais c'est ça qui est très fort. Alors, à propos justement du rapport au temps, ça, c'est vous qui le dites, Jean-François. Vous dites, page 223, je comprends qu'ils ont une parfaite conscience de la maîtrise de la durée. Vous évoquez ce djihadiste à qui vous posez des questions pendant plusieurs heures, sans jamais obtenir une réponse. Et puis, il vous dit, monsieur le juge, mais pourquoi vous fatiguez-vous donc tant avec vos questions? J'ai Dieu à mes côtés et nous avons le temps pour nous. C'est un peu désespérant quand même.
Je prends votre rôle et l'autre qui lui dit, vous savez, entre nous, il n'y a que la distance d'un fusil.
Oui. Ça c'est au tout début, oui, c'est ça. Voilà. Oui.
Alors, oui, c'est-à-dire parce qu'il avait compris, il n'est pas un délinquant. C'est le fusil, c'est la guerre. On est en guerre et on est dans une autre logique. C'est ça,
alors, il faut à tout prix reprendre tout ce qui s'est fait justement en 2012, hein, les assassinats absolument odieux de Mehran, et puis la mouvance. Et puis on arrive, alors troisième grande partie, c'est Daesh. Alors là aussi, je voudrais que l'un ou l'autre, vous nous expliquez, parce que le grand public est souvent marqué par la question de l'allégeance. On dit, il a fait allégeance dans l'assassinat horrible de Monsieur Salvin et de Madame Schneider à Mayenville, hein, de fonctionnaires de police.
C'est dans le couscous. Non. C'est Laroussi Abdallah. Voilà. Abdallah, mais le fonctionnaire colonial s'est trompé, l'a mis Abdallah.
Oui. La Russie Abdallah, il a le temps d'enregistrer l'allégeance. Bon. Oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'allégeance et pourquoi, par exemple, dans les attentats de janvier 2015, les frères Kouachi font allégeance à Agba et Koulibaly fait allégeance à Daesh. C'est quoi cette histoire?
Cette histoire-là, enfin, je parle sous contrôle de Jean-François, ça, c'est pas clair. Encore, pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact.
Ah oui, ils se voient.
Voilà. Mais les uns ont été formés au Yémen.
Parce que les deux
Kouachi, l'un des Kouachi en tout
depuis
cas.
Depuis 2014, Al-Qaïda et Daesh, ils se tapent dessus.
Plus ou moins. Ah. Mais justement, parce que c'est aussi notre manière pour penser des phénomènes, la complexité du social, on a tendance à faire des catégories.
Bien sûr.
Mais c'est des catégories qui sont simplement des catégories de saisie. Il y a des flux entre les uns et les autres, vous voyez, et on passe de l'un à l'autre. Et ce qui est. Alors l'allégeance, c'est effectivement c'est le fait de se réclamer de celui qui a une parole incontestable. Et au nom de l'État islamique, on va...
L'État islamique, c'est Daesh.
C'est Daesh, oui. Daesh, voilà, en fait, c'est un acronyme arabe qui signifie « Dawla l'Islamia fil Irak wa Sham », c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Sham. Le Sham voulant dire le Levant, globalement. Et c'est un mot, c'est le terme arabe, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail islamique de cette appellation, qui désigne cette région qui va, en gros, c'est Syrie, Liban, Irak, etc. Et donc, c'est ce que Jean-François appelait le terrorisme projeté, effectivement. Et en fait, l'histoire de Mayenville, ils identifient des policiers. Et la procédure montre que ces policiers n'avaient rien fait de spécial. Simplement, on va aller chez eux, les menacer, etc. Il n'était rien de spécial. Ce ne sont pas des policiers antiterroristes, quoi que ce soit. Et la dame n'était pas policière, elle était fonctionnaire. Voilà, c'est l'agence du commissariat. Et donc, c'est la terreur. Mais il y a aussi quelque chose qui est à la fin, si je me permettais de tirer la couverture à moi, c'est qu'à la fin, le gars annonce, au nom de Daesh, une liste de gens qu'il faut tuer.
Et vous êtes dans la liste.
Le premier, non, pas seulement dans la liste quand même. Excusez-moi, rendez-moi quand même tout honneur.
Et donc, on va se dépêcher de terminer.
Oui, justement, mais il faut que tu termines dramatiquement. Et pourquoi ? Parce que j'ai été en prison un peu avant, non pas parce que j'ai comparu dans Jean-François Ricard qui m'a condamné, mais parce que, quand je disais ça, les collègues disaient « tant mieux qu'il y reste », mais bon, non. Mais c'est pas... Et parce que les braqueurs... qui tenait le rôle de caïd en prison, le plus gros dealer de drogue de Seine-Saint-Denis ou le plus gros braqueur de banque.
Le film Le Prophète.
Exactement, le film de Jacques Audiard. Donc, qui avait remplacé les caïds corses, était désormais menacé par l'arrivée des djihadistes. Les recruteurs djihadistes qu'on mettait en prison, qui disaient aux prisonniers, c'est pas votre faute si vous êtes là, certes, vous avez tué la vieille, mais... C'est pas la prison qui apporte la rédemption, c'est de venir faire le djihad avec nous et Allah va vous pardonner. Et ça avait un effet terrible qui menaçait, et les caïds, effectivement, avec l'administration pénitentiaire, tenaient l'ordre. Et après, on avait une réduction de peine. Donc on fait venir le père Kepel, la fleur au fusil là-dedans. Et je fais ma conférence un peu comme avec vous. Donc vous êtes, imaginez que vous êtes les prisonniers de Villepinte. Et au milieu, je ne vois pas très bien, là, c'était éclairé. Dans l'ombre, il y a le recruteur avec les choufs, qui est le pauvre type qui était là fasciné par lui. Il boue d'impatience, il est furieux. Il y a la séance de questions-réponses, comme on va avoir tout à l'heure. Je ne sais pas s'il va être aussi dense. Et il me dit, ouais, qu'est-ce qui tue le plus? C'est vous ou c'est nous? Comment il commence à m'attaquer, truc, non? Au bout d'un moment, ça va, et je lui réponds en arabe classique. Il ne comprend rien. Il était marocain d'origine, mais bon, rebeu. Et donc, je me retraduis en français, hurlement de rire, parce que l'ambiance dans la prison, ce n'est pas aussi policée que qu'à la station Ozone. Hein. C'est un peu plus, c'est pas les bisous, non, simplement. Ouais, nique ta mère, le canard devant qui est. Donc, il était furieux, il est allé dans sa cellule, il a pris son téléphone cellulaire, c'est pour ça, sans doute, ça s'appelle cellulaire. Il a appelé Daesh et il a, en gros, allô, Daesh, Bobo, qui appelle Salo, etc. Et à travers ces réseaux, ce ciblage a été mis dans le logiciel de ce pauvre imbécile de la Rossi Abdallah, qui n'avait aucune idée de qui je pouvais, etc. Mais il a lu la déclaration disant il faut que tuer tous les journalistes et d'abord Gilles Kipel. Alors là, c'est insulte suprême. J'ai rien contre les journalistes, enfin, chacun son métier. Moi, je veux être condamné à mort comme professeur d'université à l'époque de classe exceptionnelle avant d'être viré. Pas comme journaliste quand même.
On a sa petite fierté quand même.
Ah, bah, quand même, hein, vous savez ça mieux que moi. Évidemment. Aussi, vous avez été mis dehors de l'université.
Oui, bon. Il va falloir qu'on arrête parce qu'on va se faire rappeler à l'ordre. Vous voyez comment c'est tellement passionnant. Parce que, alors, bien sûr, les attentats de janvier 2015 et surtout du 13 novembre, donc effectivement, ça va être les 10 ans. Hein. Là, vous êtes en plein dedans. Hein. Je voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer quand même, j'allais dire, un élément pour lequel vous avez vraiment œuvré. C'est la création du PNAT, du Parquet National Antiterroriste. Et il a été créé par la loi du 23 mars 2019. Donc, il est rentré en activité le 1er juillet 2019. J'ai retrouvé sur le site du ministère de la Justice une interview de Catherine Pignon, que vous connaissez, qui était directrice des affaires criminelles et des grâces, et qui dit la création du parquet national antiterroriste répond à une exigence de spécialisation, de maîtrise de la complexité des techniques d'enquête utilisées, de la connaissance du contexte géopolitique, des mécanismes de coopération et d'entraide pénale internationale mise en œuvre quotidiennement, comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme. Hein. Qu'est-ce que ça a apporté le PNAT? Vous avez été procureur national, le premier, pendant 5 ans. Qu'est-ce que ça, dans l'édifice de l'antiterrorisme, puisque c'est le titre du livre, c'est quoi cette brique-là? Il n'y a pas de jeu de mots hein, sur le brique.
Je la prends, la brique. C'est la dernière brique d'un édifice qui a été mis en place depuis quelques années auparavant et qui consiste à réorganiser tout l'appareil antiterroriste en France. On crée la DGSI, on va créer
la Direction générale de la surveillance, la sécurité intérieure.
La sécurité intérieure. La surveillance. Là, il y a le renseignement territorial. On va créer aussi auprès du président de la République un coordonnateur du renseignement et de la lutte antiterroriste, le CNRLT. Et on va avoir une grande loi sur le renseignement qui était absolument indispensable. Mais on n'a pas vraiment jusque-là changé la donne en ce qui concerne l'appareil judiciaire. Et le PNAT vient en quelque sorte couronner, en tout cas terminer, la construction de cet édifice important qui va mettre à peu près 7 ou 8 ans pour aboutir entre le 2012 et 2019. C'est une véritable force de frappe judiciaire.
Il y a 23 magistrats.
Il y a en tout 30 magistrats au parquet antiterroriste, mais également, il faut savoir qu'il est aussi en charge des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide. Et puis, sa caractéristique, c'est deux choses. Ces caractéristiques. La première, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une spécialisation. Ce sont des magistrats très spécialisés, très pointus, puisqu'il y a au sein de ce parquet des sous-sections. Certains vont être spécialisés sur les questions des mineurs, d'autres sur le cyber, d'autres sur les problèmes de financement, et ainsi de suite. Et puis, c'est aussi un parquet qui va intervenir tout au long de la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes en contact avec les services de renseignement avant même que l'on se décide à ouvrir un dossier en judiciaire. Est-ce qu'on va judiciariser ou est-ce qu'il vaut mieux garder l'affaire pour l'instant simplement en renseignement, comme on dit. Et puis ensuite, on va suivre l'affaire tout au long. Les mêmes magistrats vont suivre l'affaire tout au long. L'enquête, l'instruction, c'est eux qui vont aller devant les juridictions. Et puis c'est eux également qui vont prendre en charge l'exécution de la peine et aller encore au-delà, préparer la sortie et assurer le suivi une fois que les individus ont purgé la peine. Donc c'est un parquet totalement intégré. C'est le seul en France qui fonctionne comme cela.
Il y a le parquet national financier, c'est pas...
Oui, mais par exemple, il ne fonctionne pas d'abord avec les services de renseignement en amont du judiciaire, et il ne s'occupe pas de l'exécution des peines non plus. Mmh. Donc c'est un parquet très important, le PNF, parquet financier, mais nous, véritablement, c'est une particularité, d'autant plus que jusqu'à présent, les magistrats du tribunal qui connaissent le dossier, n'allaient pas devant la cour d'assises. C'était les magistrats de la cour d'appel, rôle que j'ai eu à une époque, des années avant.
Et là, on les voit dans les méga-procès. Et
là, on les voit très bien. On voit, par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours, V13, les attentats du 13 novembre. C'est mon adjointe directe qui était présente au Bataclan la nuit même du 13 novembre, qui sera une des magistrats qui va assurer l'accusation devant la cour d'assises lorsque le procès aura lieu.
Alors, on va terminer. J'avais une dernière question, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Le savoir encyclopédique sur la question de Gilles Kepel. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai appris plein de choses. Je vous demanderai à tous les deux, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre ? Puisque, est-ce que vous êtes fait voir vos textes régulièrement, au fur et à mesure de l'écriture, ou vous avez travaillé en aveugle ?
Ah non, pas du tout. C'est quand j'ai dit l'aveugle et le paralytique, non, c'est plutôt le presbyte et le myope, si vous voulez, ou l'obsessionnel et l'hystérique. Non, pas du tout. C'était justement une procédure très intéressante. Enfin, j'avais jamais fait ça, je crois, Jean-François non plus.
Une procédure, oui. Une
très intéressante. Procédure, oui, procédure. Je suis contaminé par son vocabulaire. À savoir que donc on élaborait le plan au fur et à mesure. Et on a mis de l'ordre chronologique dans ce magma parce que c'était la meilleure manière d'arriver à le rendre intelligible, si vous voulez. Mais quand Jean-François a été le nez dans les mains dans le cambouis de 1995, évidemment, il ne le percevait pas que c'était le prélude à ce qui se passerait ensuite et que le djihadisme d'atmosphère viendrait après. Ouais. Donc ça, on ne peut, la chouette de Minerve ne se lève qu'au crépuscule, selon l'expression consacrée. Et donc on a pu faire ça seulement parce que ça s'est déjà passé, on aurait pu pas faire. Donc ce qu'on faisait, c'est que on préparait on se répartissait des choses à écrire, on se les montrait réciproquement. L'un trouvait que là c'était exagéré, qu'il manquait ceci, cela. Donc Jean-François avait une matière absolument considérable, bien sûr, parce qu'elle était totalement inédite. Donc il a fallu qu'on la trie, qu'on choisisse ce qu'on mettait en avant, ce qu'on ne pouvait pas tout dire, sinon ça aurait fait 10 000 pages. Mmh. Et parce qu'il y avait combien de c'était des, vous aviez des centaines de milliers de pages de certaines matières. Donc là, c'était vraiment un digest qu'on a travaillé ensemble. Et on a, d'une certaine manière, le texte est un texte complètement à quatre mains. Et avec, comme vous l'avez signalé, de temps en temps, on a laissé sortir délibérément un jeu, parce que c'est aussi notre histoire. On a été des acteurs, Jean-François directement. Moi, j'ai été la victime, non consentante, évidemment, du djihadisme. Et aussi, et c'est ça qui fait aussi la particularité de ce livre. Je crois que c'est assez rare qu'un livre soit fait comme ça. Avec un, les deux individus sont tout à fait bien présents et bien identifiés. Mais c'est pas qu'ils confrontent leur expérience, c'est qu'ils la confondent complètement, mais ils la mettent en phase.
Oui, vous les accumulez. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que vous n'êtes pas formé, vous, à la culture de... Vous ne parlez pas l'arabe? Moi, je ne pense pas.
Quand même, un peu quand même. Non, on est obligé d'avoir une culture pour comprendre ceux qui sont en face de nous. Si on n'a pas cette culture, on ne peut pas se contenter des procès-verbaux.
Ça s'acquiert par le temps.
Eh ben oui, on lit, on apprend et on travaille. Ce que j'ai appris en faisant ce travail de longs mois ensemble avec Gilles Kepel, c'est peut-être à mieux regarder ce que j'avais vécu.
Ah oui.
Il y a des phases où je n'ai pas vécu directement, puisque je n'ai pas fait que du terrorisme dans ma carrière de magistrat, mais il y a des phases que je n'avais pas du tout perçues comme ça. Alors, je vous donne un seul exemple. Entre 2004, 2005 et 2011, il n'y a non seulement pas d'attentat, mais il n'y a même pas de projet d'attentat concret. Moi, je suis un peu retiré des affaires à l'époque. J'ai quitté mes fonctions de juge d'instruction, mais je suis toujours ça. Et c'était une période que j'avais vécue, j'avais comprise comme du repli. Et en fait, en retravaillant les dossiers, qui se sont produits quand même pendant cette époque, en rééchangeant avec Gilles, on se rend compte que non, c'est beaucoup plus complexe. C'est une période de recrutement, de formation, de développement. Et c'est cette période, en apparence extrêmement tranquille, qui va permettre la flambée qu'on va connaître ensuite à partir de 2012 avec plus de 1500 personnes qui partent de France vers la Syrie.
21 attentats en deux ans, l'équivalent de ce qu'on va avoir entre 2012 et 2023.
On a une véritable explosion à partir de 2012 et cette explosion, cette flambée du djihadisme, on se dit mais comment ça se fait alors qu'on a 6-7 ans en apparence tranquille. Eh bien non, ces 6-7 années n'étaient pas du tout tranquilles.
Gilles Kepel, Jean-François Ricard, Antiterrorisme, la traque des djihadistes. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut vous applaudir.